patient en fait, mais effectivement, ce sont des métamorphes.
On verra que la planète peut s'élargir avec Thomas, parce que chez Thomas, il y a même des trucs encore plus dingues. Il est dingue dans le garou, enfin, il y a des trucs. Et le pire, c'est que je ne même pas. Pourquoi justement cet archétype-là, particulièrement du morphe?
J'adore.
Il est très transformé en animal.
Voilà, moi, en fait, je suis une grande lectrice à la base, forcément, avant d'être auteur. Et j'aime particulièrement les histoires de loup-garou, entre autres. Et je trouvais que, du moins à l'époque où j'ai commencé à écrire, ça remonte bien un petit peu maintenant, il y avait énormément d'histoires sur les vampires en urban fantasy. Pas tant que ça sur les loups-garous, du moins, il n'y avait pas beaucoup de livres dédiés aux métamorphes. J'avais envie de faire ça et de développer justement les polymorphes, être capable de prendre plusieurs formes. Donc, je suis parti là-dessus et j'ai développé toute une mythologie autour de ça. Voilà.
Alors, on reviendra sur la question de la crise de nerfs au fur et à mesure, mais c'est vrai que, voilà, au départ, on a une jeune fille un peu complexée par ses difficultés. Finalement, c'est presque une adolescente comme les autres. Elle est mal dans sa peau et elle comprendra pourquoi elle n'est pas comme les autres.
Voilà, je pense que c'est la définition d'une adolescente.
Très bien, c'est une bonne réponse. Bonjour. Leandro nous vient d'Argentine, c'est une équipe avec nous, ça fait 3 ans, maintenant 2-3 ans. Pour la première visite de Leandro, eh bien, si vous avez eu tort, on espère qu'on va vous le faire découvrir ou redécouvrir hein, cette année avec cette nouvelle visite. Alors, Malicia, on va le laisser un petit peu de côté pour le moment. On va peut-être parler d'abord de Massachusetts et du zombie, puisque c'est au cœur de ce premier roman que nous avons pu lire il y a quelques années maintenant. Massachusetts, c'est donc une histoire de zombies dans l'Argentine, frappée par la crise économique, politique également, parce que c'est aussi un aspect important du livre. Mais alors, pourquoi y avoir mis non seulement un zombie, mais un zombie punk?
À écrire un roman à partir d'un personnage du retour des morts vivants.
Et la película de nos amigos Pan están en el cementerio cuando justo se produce el levantamiento de los muertos.
Donc, c'est un film que vous connaissez tous, où c'est au moment où les jeunes se rassemblent, ces jeunes punk, où les morts vivants apparaissent.
Y tomar a uno de esos de los personajes, a una de las chicas que se llama Trash, en otro momento como muy avanzado y muy distinta de como era en esa película.
Entonces, para él, lo que es interesante es prendre ese personaje de Trash, esa jeune fille, pero en otro momento de su vida.
Y en un punto cruzado que va a pasar en toda la novela y que pasa ya en el cruce de nombres en el título.
C'était intéressant, c'était de croiser tous ces éléments qui se croisent déjà dans le titre de Massachusetts.
Et tu juste expliquer pourquoi c'est qu'il y a un quartier de Buenos Aires, c'est ça?
Et là, les chaussettes pour Massachusetts. Avec un lugar qui s'appelle Berazategui.
Donc, comme tu viens de dire, donc Berazategui, c'est le lieu en Argentine, donc c'est le croisement entre Berazategui
et Massachusetts.
Et Massachusetts, c'est ça, tu
es un barrio como más bien marginal, digamos, y se le dice Massachusetts siempre un poco en broma.
Entonces, es un quartier un poco marginalizado, entonces lo llamamos Massachusetts en blanco.
Y bueno, tanto como pasa en el título, la idea creo que siempre fue jugar como una dimensión de lo real o de lo que estaba pasando en ese momento. Y contarlo justamente en cruce con esa dimensión fantástica y más propia del cine.
Donc, comme dans le titre, il s'agissait de croiser la situación, ce qui est en train de se passer en Argentina a ce moment-là.
Y cruzamos con una dimensión
fantástica.
Bien sûr, évidemment, on va venir au fur et à mesure de cette table ronde. Karina Rosenfeld, effectivement, pourquoi ce choix d'abord?
Et puis, comment se fait le lien finalement avec l'histoire?
Alors, pour tout ce qui est voilà, les noms de Dieu, de la Corona, simplement parce que je suis un grand fan de tout ce qui est voilà, mythologie, j'ai fait du latin quand j'étais gamin, au collège, etc. Et donc, j'ai toujours été bercé par, par la Rome antique et par, par la Grèce antique. Et ce qui fait que j'avais envie de, pour le tome 1, voilà, comme ça se passait le jour de la Saint-Valentin, je me suis dit, voilà, Cupidon, ça me paraissait logique. Pour le tome 2, il fallait que je trouve quelque chose qui avait un rapport avec les apparences. Comme les apparences sont souvent trompeuses. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est tout con, je vais prendre la, la femme de Cupidon, le psyché, tout simplement. Et donc, là, pour psyché, tout simplement, c'est parce que ça se passe dans, sa, dans le milieu pharmaceutique, dans une société un peu obscure. Par des gens un peu crapuleux, et donc je me suis dit, ben voilà, ouais, ça allait beaucoup de sources.
Et c'est la guerre. Ça commence mal hein, quand on rencontre Kayla, puisque quand on fait sa connaissance, elle est bénie de son clan, de sa meute, pardon. Je voulais être un meute, juste une place à dire. Elle est bannie parce que ben, justement, elle n'arrive pas à se transformer. Non, en tout cas, c'est la raison qui est invoquée. On verra peut-être que tout sera chose par la suite, mais en tout cas, c'est la première chose qui se passe, et donc, avant d'être un peu énervée, elle est surtout très triste, et elle va devoir choisir de mener sa vie dans son corps, de reprendre son destin en main, finalement, ce qui est peut-être, a priori, pas forcément un mal, d'une certaine manière, au départ.
Non, c'est clair, c'est pas un mal, mais il faut savoir que donc, c'est vraiment une vraie gêne, je me suis servi un peu des clichés, donc son plan est vrai.
Elle préfère le lard à son père et sa mère.
Ah, c'est dedans.
J'ai été bougé aussi un petit peu pendant quelques années. Il faut bien rester.
C'est la normalité. Sauf qu'en grandissant, effectivement, elle n'a pas développé sa forme animale, contrairement aux autres. Et vu qu'ils sont très conservateurs, très sectaires, très élitistes même, le fait d'avoir cette faiblesse, ce handicap, c'est vu réellement comme un handicap, elle se fait martyriser par les siens. Un peu, enfin, c'est comme dans les cours d'école, quoi. Il y en a un qui va être, je sais pas, un qui va être obèse, qui va être trop petit pour son âge, hein, qui va avoir deux têtes de plus que les autres. Mais c'est un peu pareil. Clairement, on se fait martyriser dans les cours d'école pour des choses comme ça, parce qu'on est différents. Et j'avais envie voilà, d'amener ça un peu, même si c'est pas le, vraiment le thème principal du livre. Je voulais que ce soit en fond, parce que c'est un sujet quotidien. Mais, comme je disais, il a connu que ça. Pour elle partir, c'est... Imaginez-vous à 18 ans, vous avez grandi toute votre vie dans votre famille, dans votre village, et du jour au lendemain, on vous dit, ben maintenant tu t'en vas, vous ne connaissez rien du monde, vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'on vous a toujours dit que vous étiez handicapé en quelque sorte, que vous étiez différent. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est triste de partir, en fin de compte.
Est-ce que c'est une société qui est la nôtre, finalement, où les créatures, en l'occurrence, celles dont on parle, c'est les morts, ne sont pas forcément connus de tout le monde. C'est un secret aussi à porter. Hein.
Ils vivent cachés. Ils vivent cachés, mais en fait, ils vivent vraiment en communauté assez reculée, du moins pour les Vosgiens. Contrairement à la meute mancienne que Kayla va rencontrer par la suite, donc Kayla Delorine, qui en fait, elle va halluciner, quoi, parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent normalement, ouvertement, au milieu des humains, qui peuvent faire la fête, s'amuser. Elle tombe un peu dénue, elle se demande ce qui se passe, elle dit tiens, mais en fait la vie c'est bien.
Entre vous et tout le monde, je crois que j'ai jamais passé autant de temps en mode de nuit en vous lisant. Ça, c'est... ça n'arrête pas.
Elle a 18 ans.
Oui, c'est pas encore,
je me suis souvenu, mais un peu avant mes 18 ans.
Léandre, Léandre, Léandre,
sur la Massachusetts. On a donc ce personnage très particulier de cette zombie punk qui se retrouve alors plongé, pour le coup, dans cette société. L'archétype du zombie est un petit peu détourné. On n'est pas dans une invasion, même s'il faut bien se nourrir quand même, parce que voilà. Mais on est dans ce personnage-là qui devient un peu le point névralgique, le cœur de cette histoire, qui est presque une fable finalement sur l'Argentine d'aujourd'hui. Siendo siempre lo más humano dentro de ese circo.
Travailler avec ce genre de monstre qui finit toujours par être extrêmement humain au milieu de ce cirque.
Un poco de lo que estaba en el clima medio apocalíptico que había.
No sé si c'est le climat un peu apocalyptique qu'il y avait à ce moment-là en Argentine.
La crise économique qui a poussé quasiment le pays à la faillite. Oui.
Donc il s'agit de la crise de 2002, une crise sociale extrêmement forte avec la banqueroute des banques.
Pero también me gustaba que es un personaje que encarna un poco todo lo que la sociedad condenaba.
Ce qui me plaisait aussi, c'est qu'il s'agit d'un personnage qui incarne tout ce qui était condamné par la société.
Lo que tenía que ver con la moral, lo físico, esa cosa monstruosa y un poco borde de la figura del zombie.
Toute cette chose monstrueuse et corps, un peu corps, de la figure du zombie.
Pero que también tiene algo festivo y lúdico.
Et qui a aussi, qui porte aussi quelque chose de festif et ludique.
Que permite eso propio como del carnaval y que hay algo que si bien hay un clima muy apocalíptico y crítico en relación a esa realidad, también creo que el zombie permitía introducir algo que está muy presente en toda la novela, que es el humor.
No, pero es un personaje que permite de montrer tout ce qui est typique du carnaval, de développer cette thématique.
Pero que a la vez permite que ingrese el humor en todo.
Oui, qui permet également ce personnage, ce type de personnage, de faire ressortir l'humour.
Alors, on parle dans ce tableau de personnages au bord de la crise de nerfs. C'est l'état naturel de votre zombie d'être au bord de la crise de nerfs, déjà.
Sí, a la vez creo que todos los que no son zombies están mucho peor siempre. Son todos los otros personajes son tienen los impulsos más irrefrenables al final que el propio zombie.
Los personajes du roman ont des impulsions encore plus irrépressibles et violentes que la propre zombie.
Carlos Etchel, alors venons-en à ce que vous commenciez à expliquer tout à l'heure, moi je vous ai brutalement interrompu. C'est que, donc voilà, il y a cette particularité de deux animes, c'est que dans ce premier tome, il est presque absent. C'est la résienne un peu de ce premier tome.
Exactement. L'idée, c'est de faire monter le mystère pendant tout le roman pour savoir qui est l'autre du démon.
Donc, il est attiré le mystère.
Voilà, c'est ça. Il est quand même un peu là. Puis quand il est là, effectivement, il est vénère. Mais il y a toute une galerie de personnages qui est assez nombreuse. Hein. Et j'essaye de semer le doute dans l'esprit du lecteur pour savoir qui le démon a-t-il choisi d'occuper. Donc, il y a des gens qui se sont laissés complètement avoir, qui n'ont pas deviné. Il y a des gens qui ont deviné tout de suite, il y en a qui avaient des doutes. Voilà, donc ça dépend vraiment du lecteur. Mais dans la plupart des cas, ça a marché. Quand
tu veux dire la triste, c'est que le monde peut être content.
C'est vrai, c'est vrai. à l'intérieur, ce que je trouvais parfait, ce qui était vraiment passionnant, exactement. Donc j'étais contente de mon choix finalement, et je trouve que ça lui va très bien à mon démon ce nom.
Tout le monde, une série autour de Drake Carter sous son nom, des polars.
Oui.
Puisqu'on a vraiment une enquête policière que l'on suit avec des crimes, des coupables, même plusieurs gendarmes parfois qui se coupent et se recoupent. Sauf qu'on leur dit, tout est mené par des créatures, par des personnages qui ont parfois des capacités dont ils ignorent eux-mêmes. L'importance, la puissance, hein, dans Stone 3 qui vient de sortir, on voit tout le questionnement qu'a Drake lui-même sur ce qu'il est exactement. C'est intéressant parce que finalement on change un petit peu d'axe, hein, par rapport au polar traditionnel. C'est aussi ce qu'on va chercher, justement.
Tout à fait. Je suis un grand amateur de polar. J'ai été bercé par les Agatha Christie, par les Léo Mallet, par les Jean Seulement. Puis comme je suis un grand sérivore, j'ai été bercé par Arabesque pour les plus d'entre nous, ainsi que pour Castle récemment.
J'ai d'avoir du mal à m'imaginer Drake Carter ressembler en direct à Hans Barrington.
Je vais y trouver, mais ça va être super bien pour lui. Et donc ce qui fait que j'adore tout ce qui est polar, j'avais envie de faire un urban fantasy mêlant le polar. C'est un petit peu ce que fait les auteurs américains en ce moment. Et donc j'avais envie de mettre ma patte. Et c'est vrai que j'essaye de faire une intrigue qui mène des plusieurs suspects, plusieurs choses, et avec toujours ce point commun où ce serait une créature surnaturelle qui serait le idéal. Hein. Parce que quand on a des personnes qui se font promptement arracher le cœur, je ne pense pas qu'on fasse ça avec une balle à gâteau. Donc je me suis dit, comment je pourrais faire ça. Et donc la créature surnaturelle est arrivée assez rapidement.
Par la grille immortelle, vous avez placé le curseur assez haut sur les crimes.
Oui, pour les gilets, je me suis dit, tiens, pourquoi pas d'avoir un cadavre sans peau. C'est-à-dire que c'est un peu comme une orange, on a enlevé l'écorce, et bien la séparer, on a enlevé la peau. Donc oui, je suis pas bien dans ma tête. Je suis en colocation.
L'écorchement, ça va, c'est les balles de balle derrière.
Parce que pour l'identification, ça sert à rien, on fait les dents, on regarde les yeux, etc. Je me suis dit, si on pouvait en plus détruire carrément le visage avec 22 balles, ça pourrait être pas mal. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa. 22, pourquoi 22? Je sais pas.
Les flics.
22, les flics, ouais, c'est un peu la conscience du faire. Donc oui, après, ça pour le tome 3, c'est comme ça. Pour le tome 2, c'était des décapitations. Assez sympathique, c'était plus holo. Et puis pour le tome 1, c'était des cœurs arrachés.
Tout va bien. Nos auteurs aussi sont au bord de la crise, c'est ça. Ça va bien. On est donc avec ce personnage un peu paria, un peu laissé pour compte, qui doit essayer de retrouver déjà de ses esprits et puis d'essayer de reprendre un peu sa vie en main. Et c'est cette façon de rencontre qui va changer un petit peu les choses. Je pense qu'on peut encore en parler tranquillement, même si après on va pas aller forcément beaucoup plus loin dans l'intrigue pour pas trop en dévoiler. Mais il fait quand même cette première rencontre dans un bar d'ancien. Qui est ce garçon? Parce que c'est forcément truqué des garçons.
On parle duquel, de Max là.
On peut parler des trois. Parce qu'on en a trois. On ne fait jamais les choses à moitié dans les bouges.
Alors on peut croire qu'elle a le choix, mais en fait, c'est pas vraiment le choix.
Plus compliqué que ça.
Plus compliqué que ça. Ça, on parle de triangle, carré amoureux. Mais non. Non. Il se passe rien.
C'est
plus complexe que ça. Et je pense qu'il parle juste de sexe, hein, pas de la vie.
Entendez-nous bien. Non, mais le choix n'est pas fait.
Oui, effectivement, elle fait une rencontre. La rencontre qui va changer les choses pour elle. Donc, c'est Max qui est le premier lieutenant, on va dire, de Henri, qui est alpha de la maintenancienne. Il est mystérieux. Militaire, il a des idées bien arrêtées, ça se passe comme ça et pas autrement. Elle essaie de lui cacher comme elle peut son handicap, le fait qu'elle ne soit pas capable de se transformer. Mais bon, rappelle celui qui est le moi. Et en fait, c'est lui qui va la guider dans la recherche de ses origines et comprendre quel est son problème et l'aider, pourquoi pas, par la suite à la raison.
Alors, mais il faut que ça, ce sera le lecteur de Dej. En tout cas, c'est celui qui est sans doute le plus complexe des personnages parce que c'est celui sur lequel, peut-être pas forcément sur lequel on se pose le plus de questions parce qu'on se pose des questions à peu près sur tous les personnages, mais en tout cas, celui qu'on a peut-être le plus de mal à cerner parce que. Effectivement, il y a ce mystère qui d'ailleurs tient à pas mal de baskets, ça on va vous laisser les découvrir. Mais c'est vrai il est particulier, presque inquiétant même ce Max.
Je voulais qu'il y ait vraiment une grosse part de mystère autour de lui. Je pense aussi que c'est ce qui fait le charme des fois des gens, justement le mystère qui les entoure. Après, ça serait peut-être un mauvais garçon, une chose ou pas. C'est pas vraiment un mauvais garçon. Je pense que le mauvais garçon a du mal dans le talent, ça va plutôt être Jérémy Arbour du Jupon, qui n'est pas trop pour les relations exclusives, ce genre de choses, ça ne l'intéresse pas des masses. Max, lui, c'est plutôt les relations tout court qui n'intéressent pas des masses. Il est plus travail, il y a ça à faire, ça à faire. Mais ouais, non, je voulais vraiment très mystérieux, et c'est à Kaïdan après déterminer pourquoi tout ce mystère, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, est-ce que peut lui faire confiance ou pas. Sauf qu'il n'y a pas que pour lui qu'elle se pose la question, parce qu'en fait...
Elle va se retrouver presque adoptée par une autre meute.
Oui.
Et effectivement, c'est là aussi que sa naïveté va jouer.
Voilà. Ouais, elle est très naïve. Mais je vous rassure, ça change. C'est un peu comme dans la vie. Elle a grandi dans un cocon, elle a grandi vraiment coupée du monde. Donc elle a du mal à cerner les gens, à savoir vraiment à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Je pense qu'elle va vite l'apprendre.
La brave Alice Belcher va quitter un petit peu par ses chaussettes. Je voulais quand même qu'on parle aussi de Malicia, qui est votre dernier roman paru et traduit en français. Mais j'avais un petit souci, c'est pour ça qu'on s'est vu un peu avant la table longue, parce que si on avait voulu vraiment respecter strictement le sujet en parlant de Malicia, on aurait sans doute révélé des choses qui auraient posé problème par rapport à l'intrigue du livre. Donc, on a essayé de trouver un biais. Vous en avez déjà dit un petit mot, c'est qu'on voit dans votre travail les très nettes influences du film d'horreur, et particulièrement du film d'horreur italien. Et dans Malicia, c'est encore plus marqué, on retrouve une influence de ce qu'on appelle le giallo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le giallo?
Lo que más me... Bueno, básicamente el giallo es una serie de películas de cine italiano de los 60.
El giallo es una serie de films italianos de los años 60.
Con directores emblemáticos como Mario Bava, Dario Argento.
Avec des directeurs emblématiques comme Argento et Rovano.
Mario Bava.
Mario Bava et Argento.
Y lo que más me interesa de alguna de sus películas es el cruce de géneros que se suele dar.
Es que me interesa lo que son sus films, es encore ce croisement entre les genres.
De una historia policial.
Entre una historia policial.
Que tiene siempre una posible resolución vinculada a lo fantástico.
Que hay toujours una resolución que pasa por lo fantástico.
Y que me parece que es un género que se tuvo como muchas distintos modos de ser desarrollado.
Y me parece que es un genre que ha conocido plusieurs formas en su desarrollo.
A veces siempre con una estética muy fuerte, vinculada quizás más a lo erótico.
Avec une esthétique très forte, parfois reliée à l'érotique.
Películas incluso casi surrealistas a veces.
O de films presque surrealistas, en fin.
O más vinculadas al terror en otras ocasiones.
O davantage reliées à la terreur, au film d'horreur.
Que muchas veces no son películas quizás buenas incluso.
Que son pas toujours de bons films.
Que hay muchas que sí, muchas que no, porque hay, se hicieron miles.
Donc, quelques bons films, d'autres non, parce qu'il y en a eu beaucoup.
Son
foto, l'industria del cine, no solo en Italia, en España, en muchos, sobre todo en muchas ciudades, muchos países europeos.
No solo en España, en Italia, en muchos países europeos.
Pero que también es un tipo de cine que creo que es un paso anterior para el desarrollo después del slasher.
C'est aussi un genre de film qui nous permet d'avancer vers le slasher.
Esa figura del asesino serial, el...
la figure de l'assassin, du serial killer.
Ah, ça, on va pas en parler. Pero que quizás en el hielo también cada asesinato estaba puesto en un lugar de inventiva mucho más importante que en el slasher.
Que dans ce genre, chaque assassinat était dans un contexte beaucoup plus inventif que dans le slasher.
Là, c'est particulier puisque ça se passe pendant, en tout cas pour les débuts, ça se passe pendant une revue, dans un espèce de casino, cabaret, d'une cité balnéaire argentine. Et on a. Ça se passe dans les toilettes. Il y a une toilette pour femmes, hein, voilà. Et visiblement, il se passe quelque chose d'assez terrifiant puisque les gens qui tombent sur cette scène-là restent figés.
Sí, pasa todo como en una ciudad donde es muy importante el teatro tipo cabaret, en Argentina.
Todo se pasa en un libro, todo lo que es cabaret es muy importante en Argentina.
Porque en el hielo hay mucho uso de lugares artísticos como operas, teatros o casas de modelos, donde también el lugar de la mujer es muy, la figura de la mujer está muy presente.
C'est un genre où les cabarets, les théâtres, les endroits où il y a des mannequins sont très importants parce que la figure de la femme est très importante dans ce genre.
Entonces, este tipo de teatro que he visto pensaba que me podía servir como ambiente para algo similar a ese tipo de género.
Donc, je pensais que ce décor de théâtre de revue pouvait me servir comme décor idéal.
Y al mismo tiempo, quizás a partir de esta escena de la que vos hablabas, poder cruzarlo quizás con el universo de otra película, como puede ser el Poltergeist.
Donc, dans la scène dont tu parlais, justement dans les toilettes, c'était aussi une façon de croiser avec le film Poltergeist.
Profundo hermoso de Dario Argento, hay un personaje que es una medium.
D'Argento, le film d'Argento, il y a un personnage qui est un médium.
Et en algún punto, bueno, de ahí quería tomar esa figura, trabajarla en Malicia.
Je voulais travailler cette figure, ce personnage dans Malicia, où on retrouve une médium.
Et un punto un poco crear ese vínculo que se empieza en la novela entre los ríos y ciertos espíritus y. Puntualmente a partir de esta escena, una conexión entre todos ellos.
Y de ahí comencé a crear ese lien que se fait entre los vivos, entre los esprits y los vivos del roman, a partir de esta escena.
En Malicia, bueno, básicamente el asesino empieza, es una temporada, está ambientada en un momento en verano.
Donc, en Malicia, ça commence, c'est pendant l'été. C'est la saison donc des spectacles qui commencent.
Et l'assassin commence à mourir distinctes vedettes de ces œuvres de théâtre.
Et l'assassin commence à sévir et commence à mourir différentes vedettes des différents shows que l'on peut voir dans cette ville.
Ça va essayer de planer le mystère. Kaderzenfeld, on a dit donc dans un livre, il y a cette tension, en tout cas pour une partie des personnages, puisque certains autres ignorent un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, mais on a cette famille royale qui est
c'est un soldat qui est allumé, qui est dans le royaume Rakushin, donc l'ennemi ancestral d'Arakzal. Et en fait, il est blessé sur, au cours d'une bataille, hein, et il est récupéré par les infirmières de ses ennemis. En fait, c'est l'idée, c'est que le royaume d'Arakzal ne laisse personne sur le champ de bataille, quelles que soient les couleurs de leurs uniformes, il les récupère pour les soigner. Et en fait, ils ont un plan derrière ça, je ne vais pas tout dévoiler non plus. Et Jade est récupérée par, par une infirmière.
Même les bonnes intentions cachent toujours des choses.
Voilà, sans doute. Et donc, comme il est soigné par l'ennemi, quand il retourne dans son camp, il est considéré comme un traître. Donc, on le menace d'être tué pour traîtrise. Et donc, il va être entraîné dans un plan qui le dépasse au départ.
Qui le dépasse toujours à l'arrivée.
Il va dépasser encore. Il est tiraillé, mais en fait il est tiraillé au départ entre son camp et celui de l'ennemi, puis après il va être
confronté
à voilà, ça se rajoute à chaque fois. Et moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est ballotté par les événements un peu. C'est pas un traître qui a choisi de trahir son pays, hein. Il le fait pas volontairement en disant allez, ça me fout tout ça, je vais aller voir l'ennemi. C'est vraiment le concours de circonstances qui l'entraîne dans des situations un petit peu abracadabrantes. Et il est face à un choix qui se complexifie au fur et à mesure de l'histoire, en fait. Et j'aime bien parce que je trouve qu'il a malgré tout une forme de pureté, c'est-à-dire que comme il lui tombe dessus sans qu'il ait rien demandé.
Lui, il a appris à cultiver ses
pouvoirs. Voilà, il faut
changer. Il a
fait ça. La guerre, bah, c'est pas beau. Et quand on est soldat et qu'on est blessé et qu'on voit ses amis mourir, on a envie de rentrer. Et quand on est accusé d'être traître et de ne pas pouvoir rentrer chez soi, on a envie de rentrer. J'aime bien, il y a quelque chose de pur et de tendre chez lui, malgré toute la violence qui l'entoure et malgré la violence qu'il habite aussi, que j'aime bien. Et j'aime bien explorer justement sa recours. Moi, je suis partie en Norvège et ces voyages qui inspiraient les paysages et un peu la culture du royaume d'Arendsdal, c'est que j'ai remarqué justement le fait que les temples vikings, qui sont tous grands, blonds, yeux bleus, presque, et c'est impressionnant, un tissu petit en plus, au fond. Donc là, on est dans un royaume imaginaire, mais c'est vrai que comme je raconte qu'ils ont des frontières assez fermées, en tout cas pour un temps, ils sont majoritairement tous blonds, aux yeux bleus, grands, et voilà, et des victimes, quoi. Et Jade, bah, il est brun de peau, il a les cheveux noirs, il est poilu, il est tout l'inverse, et j'aime bien justement
tout ça. Pour être un potentiel traître,
c'est voilà, difficilement exactement, mais j'aime bien ce côté très différent. J'aime bien représenter justement, pour moi c'est un peu comme une panthère. Quoi. Il est sauvage, il est sombre, il y a quelque chose de félin en lui que j'aime bien. Et qui est très différent justement de cette froideur entre guillemets nordique, parce qu'en réalité, quand on voit Nord, ils n'en pas du tout, mais disons que par contraste physiquement, voilà, donc j'aime bien jouer sur tous ces contrastes et donc il est au milieu de tout un tas de choses. Il est un peu tout seul au milieu de tout ça.
Et autour de lui, on a. Des personnages. Alors, on a parlé du roi qui est un roi faible, on a parlé de ce garçon qui est un peu perdu. Et ce sont les personnages féminins, finalement, qui sont les personnages forts dans un livre, qui sont au point de caractère affirmé, qui servent. Alors, peut-être si on excepte le premier ministre, mais sinon pour les autres, c'est vraiment.
Ce sont les princesses.
Ce sont les princesses qui font vraiment.
C'est pas des princesses qui attendent leur prince charmant.
Ah oui, c'est pas des princesses Disney. Hein.
Non, ça c'est sûr. Non, c'est des princesses par leur sang royal, donc. Elles sont forcément princesses. C'est pas des princesses qui attendent impressionnant et qui ont un animal de compagnie.
Pour les emmener,
voilà. comme dans Disney, l'archétype de la princesse avec son chien, son coq, son.
Je sais pas l'archétype, c'est leur mallette.
On est vraiment. C'est des princesses fortes. C'est des princesses qui. Il y en a une qui est amenée à devenir la reine de son royaume. Hein, donc, c'est pas du tout. On n'hérite pas de la couronne parce qu'on est un homme. Hein, c'est juste le premier né. Et c'est sa mère qui était reine avant elle. Il y a aussi, j'explore, mais alors c'est pas un thème principal, mais j'explore parce que je trouve que ça fait partie de la vie, l'homosexualité féminine aussi. Voilà, et donc ce sont des femmes fortes, intelligentes, volontaires, qui sont là aussi pour aider le royaume, pour participer.
Lucien aussi, qui est l'infirmière du royaume, qui soigne les soldats ennemis. Il y a Agda, la fiancée du roi. Il y a Kaya, la fille adoptive du couple royal. Enfin, voilà, il y a tout un panel de femmes. Et c'était intéressant de les brosser. Alors, c'est vrai que dans le tome 2, là, je suis dedans, donc c'est pour ça que je me concentre plus sur le démon. Ça y est, il arrive enfin à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai qu'il vient vraiment un personnage très fort et principal.
Là, c'est pareil, Disney, pour un coup.
C'est pareil. Et en plus, je trouve que Benjamin Cavalier, l'illustrateur, j'adore l'illustration qu'il en a fait pour la couverture. Alors, je l'ai mis comme ça parce que sur le truc, c'est le bon roman. C'est un bon roman, et là, c'est plutôt du 9-12 ans. Le roman qui est sur le tableau, donc on n'est pas du tout dans l'ambiance des animaux.
C'est pour ça que c'est un petit peu plus avec le style à la base.
C'est vrai que c'est. Qu'est-ce que je disais? Et donc, on voit moins certains personnages dans le 2 parce que je me concentre plus sur une autre partie de l'histoire.
Oui, c'est vrai que quand on arrive à la fin du premier,
voilà,
on
plus sur une autre histoire et sur un autre décor aussi dans la suite. Mais voilà, je me suis vraiment amusé à explorer tous ces personnages et essayer, en tout cas, pour certains lecteurs, ça a marché de se mettre doute de dire qui est le démon. Et ils ont tous la possibilité de l'être. Du temps dans la façon dont se passe leur nuit et leur journée. Donc c'était intéressant. Et puis, voilà, de partir dans un monde imaginaire dont j'ai un empire, c'était bien. Puis j'avais le démon Zalib, là, je l'aime bien. Voilà, c'est horrible de s'attacher à un démon quand on y pense, mais il y a quelque chose de l'ordre du fascinant et presque du sensuel avec lui, je trouve.
C'est facile pour finir. Thank you.
Z dans le tome 1. Et à la fin du tome 1, en fait, il va avoir une bague un peu magique qui va un peu se fondre en lui, entre guillemets, ce qui fait qu'il va devenir, comme dit Tony, un saut mi-fantomatique. C'est-à-dire qu'il va être mi-fantôme, mi-humain, et donc il va pouvoir changer d'une forme à l'autre. Et en fait, cette mutation fantôme-humanoïde, homme, c'est bien un petit peu à ses capacités qu'on va commencer à découvrir dans le tome 3. Justement, ce qui se pose beaucoup de questions. Il va pouvoir faire des sorts, il va pouvoir fabriquer des choses que, en tant que fantôme, on ne peut pas faire. Donc, ce qui fait que, allez, là, on peut se poser beaucoup de questions, et donc on va osciller entre le fantôme, entre l'humain, entre le sorcier. Et ça va être un peu compliqué, il est un peu perdu, et c'est vrai, dans ce tome 3, il est vraiment paumé, je sais pas, paumé là-dedans. Mais il garde son sens de l'humour, son sarcasme, son ironie, justement, ils vont jouer là-dessus.
Dans les filiations, mais aussi tout le roman noir américain avec ce côté très cynique, un peu des détectives privés.
C'était vraiment le but d'avoir ce côté cynique, sarcastique sur la société qui entoure, sur les personnages qui entourent. D'ailleurs, tous les personnages, dans chaque roman, il y a toujours un personnage qui tient tête à Drake, de mon côté, Serial Vanner. Il y en a toujours un dans le tome 1, c'est Scarlett qui tient un bordel à New York. C'est une question de cours féminin. On préfère s'envoyer en l'air avec ses clients que des Drake.
On croise dans le troisième,
mais elle est complètement folle d'ailleurs. Dans le tome 2, c'est Graham, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de la série Supernatural, mais en fait, c'est le personnage que je croyais que je me suis inspiré, ou en version plus jeune et plus sexy et plus gay, pour voir à peu près. Donc j'avais envie de ces personnages-là, et dans le tome 3, c'est Killian, qui est le fiancé de Claire, hein, qui est le fils de Scarlett aussi. Donc ce qui fait que j'avais toujours envie de ce personnage-là qui donne envie, côté sarcastique, ironique, les films noirs américains.
Donc voilà, vous avez différentes créatures. Alors évidemment, on s'est un petit peu arrêté parce que on va bien reparler de leur crise de nerfs, mais on en reviendra sans doute un petit peu beaucoup sur les livres. Et le but, c'est quand même que vous alliez, après les livres, les découvrir par vous-même. Mais vous verrez que dans tous les cas, ils vont tous avoir l'occasion de s'énerver, franchement. Parce que les situations des